Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Yann.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
La Bible est source d'espérance et elle nous enseigne la sagesse. Mais que nous apprend-elle au sujet du mariage? Et quelles devraient être dans ce cadre-là les relations entre les hommes et les femmes?
Aujourd'hui, nous continuons notre série sur le mariage.
D'abord, je voudrais remercier Arnaud et Antoine pour leur participation à cette série d'émissions. Bonjour.
Bonjour Yann.
Bonjour à tous.
Lors de cette série, nous avons parlé de la vision du mariage à travers la Bible, de l'idéal biblique que nous devons chercher à atteindre dans nos vies de couple, des difficultés aussi que peuvent rencontrer un homme et une femme mariés. Puis quelques conseils furent donnés quant à la façon de remédier à ces difficultés. Nous devons admettre toutefois que de nos jours, beaucoup de mariages se terminent en séparation ou en divorce. Antoine, pourquoi cela est-il le cas?
Nous avons vu lors des émissions précédentes que de nombreux problèmes peuvent survenir au sein des couples. Et si ces problèmes ne sont pas réglés, ils peuvent amener à la rupture des relations entre un homme et une femme. De même, si l'un des conjoints est infidèle ou use de violence envers l'autre, ces situations peuvent conduire à un divorce. Tout au long de l'histoire, les couples ont été confrontés aux mêmes difficultés, mais les lois sur le divorce peuvent varier en fonction de l'époque et d'un pays à l'autre. Aujourd'hui, nous vivons à une période de l'histoire où dans beaucoup de pays, il devient plus facile d'obtenir le divorce. C'est pourquoi nombre de couples mariés préfèrent, malheureusement, profiter de cette solution pratique plutôt que de chercher à résoudre ou à surmonter leurs problèmes conjugaux.
Mais Arnaud, que dit la Bible à propos du divorce?
À travers le prophète Malachi, chapitre 2, verset 16, Dieu déclare « Je hais le divorce ».
Et pourquoi dit-il cela?
Examinons d'abord dans quel contexte parle le prophète Malachi. À son époque, les hommes en Israël étaient attirés par les femmes des autres nations, et beaucoup avaient recours au divorce pour pouvoir se marier avec ces femmes étrangères. Dans ce cas précis, nous pouvons parler d'infidélité et d'adultère.
Mais la Bible ne nous donne-t-elle pas le droit de divorcer en cas d'adultère de la part de notre conjoint?
La Bible nous accorde effectivement la permission. Cependant, il semblerait qu'à l'époque de Malachi, les hommes ont fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Ils se sont épris des femmes étrangères, autres que les leurs, et afin de pouvoir vivre avec elles, ils ont eu recours au divorce. Or Dieu accorde la permission de divorcer aux victimes de l'adultère, et non à ceux qui le pratiquent.
Dieu donc hait le divorce lorsque l'on s'en sert à des fins égoïstes, lorsque l'on veut par exemple abandonner son conjoint, juste pour en prendre un autre.
Oui, c'est exact, mais nous pouvons dire aussi que Dieu a le divorce en horreur pour bien d'autres raisons.
Et quelles sont-elles?
Tout d'abord, le divorce détruit l'institution que Dieu a établie pour le bien des hommes et des femmes. Dieu a créé l'homme et la femme afin qu'ils vivent ensemble une relation fidèle et heureuse jusqu'à ce que la mort les sépare. Imaginez que vous avez créé un bel objet artisanal et que quelqu'un le brise sciemment et qu'il vole en éclats. Vous en seriez attristé. Dieu a bien établi le mariage, mais par le divorce, les hommes et les femmes le bafouent définitivement. Ensuite, Dieu a en horreur tout comportement qui amène au divorce. À l'époque de Malachi, si les hommes n'avaient pas été infidèles, ils n'auraient jamais eu recours au divorce. Nous pouvons ainsi dire que tout divorce est le résultat d'un problème de comportement au sein des couples. Car c'est la méchanceté et l'égoïsme des êtres humains qui détruisent les relations de confiance entre un homme et une femme mariée.
Il existe une troisième raison pour laquelle Dieu hait le divorce.
Et quelle est-elle?
Dieu hait le divorce car il est source de souffrance pour ceux qui y recourent. Un divorce est toujours vécu douloureusement non seulement par le couple concerné, mais aussi par les enfants. Des sentiments d'abandon et de rejet, de solitude et d'amertume peuvent être ressentis. Certains aussi, se retrouvant avec peu de moyens, doivent faire face aux nécessités de la vie. D'autres doivent subir la honte et le déshonneur au sein de leur propre famille ou de leur communauté.
Vous avez tous deux rappelé que Dieu hait le divorce, mais déteste-t-il aussi les personnes divorcées?
Dieu hait le péché, il a le mal en horreur, mais il est compatissant et miséricordieux envers le pécheur. Diverses raisons aussi peuvent avoir amené quelqu'un à divorcer.
Et quelles sont-elles?
Certains peuvent avoir recours au divorce pour des raisons compréhensibles, tandis que d'autres non.
Dans quelle situation la Bible envisage-t-elle la possibilité de divorcer?
Voilà une question difficile. Tout d'abord, Dieu a permis aux hommes de divorcer à cause de leur méchanceté. Le divorce doit être considéré comme une issue de secours pour ceux et celles qui se trouvent confrontés à de très graves difficultés à cause de leur conjoint et pour qui toute tentative de réconciliation a échoué. Selon la Bible, l'un des problèmes pour lequel l'on peut recourir au divorce est celui de l'adultère. L'on peut aussi ajouter l'abandon définitif du foyer de l'un des conjoints et la violence conjugale. Cependant, il faut souligner que la liste des motifs justifiant le divorce est, selon la Bible, très restreinte.
Revenons donc aux personnes qui ont vécu un divorce. Quel message Dieu leur adresse-t-il?
Comme un divorce est, pour la plupart du temps, le résultat d'un mauvais comportement, Dieu demande à ceux qui l'ont vécu de se remettre en question et de se repentir de leurs fautes. Si Dieu condamne tout péché qui amène au divorce, il offre le pardon à ceux qui regrettent profondément leurs actes et qui désirent changer de comportement en mettant leur foi en Jésus. Dieu offre donc l'espoir d'un nouveau départ dans la vie à tous ceux qui désirent réellement changer. Quant aux victimes d'une procédure de divorce, vous qui par exemple subissez la méchanceté de votre conjoint, vous pouvez mettre votre foi en Dieu et lui faire confiance. Vous découvrirez alors à quel point il veille sur les siens. Dieu demeure présent dans les moments difficiles pour apporter son secours et son réconfort et pour accompagner ses enfants vers une vie nouvelle. Les victimes d'un divorce peuvent se sentir rejetées, abandonnées et parfois perdues. Elles peuvent avoir du mal à faire à nouveau confiance aux autres. Je les encourage alors à placer leur confiance en Dieu qui jamais ne laissera les siens. Nous pouvons compter sur le Seigneur et nous appuyer sur lui.
Arnaud, nous concluons ainsi notre série sur le mariage. Avez-vous quelque chose à ajouter?
Oui, je voudrais tout simplement rappeler les principes bibliques concernant le mariage et le divorce. Pour Jésus, le mariage est si précieux et sacré que nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour le réussir. À ceux qui envisagent peut-être le divorce comme une solution à leurs problèmes de couple, je leur dirais « Efforcez-vous de résoudre vos problèmes selon tous les principes bibliques que nous avons évoqués lors de ces émissions. »
Nous remercions Arnaud et Antoine pour leur participation à ces discussions.
La prochaine fois, nous commencerons une nouvelle série sur un homme de la Bible appelé Job, qui a connu la souffrance.
Dans un instant, Jean-Marc va poursuivre ses méditations sur Christ et son amour pour nous. Mais d'abord, Hélène va lire dans Éphésiens chapitre 3, les versets 17 à 19.
Que le Christ habite dans votre cœur par la foi, enraciné et solidement fondé dans l'amour. Vous serez ainsi à même de comprendre avec tous ceux qui appartiennent à Dieu combien l'amour du Christ est large, long, élevé et profond. Oui, vous serez à même de connaître cet amour qui surpasse tout ce qu'on peut en connaître, et vous serez ainsi rempli de toute la plénitude de Dieu.
Jetant un regard sur l'amour de Jésus-Christ, nous parlons de la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur de cet amour. Pourquoi? Parce que plus nous comprendrons l'amour de Christ dans toutes ses dimensions, plus nous tiendrons fermes et forts dans la vie, avec son lot de difficultés et d'épreuves. C'est en saisissant la pleine signification de l'amour de Christ que nous deviendrons comme des arbres bien enracinés, qui résistent aux tempêtes, aux ardeurs de la sécheresse. Nous deviendrons également comme des maisons construites sur de bonnes fondations, qui demeure solide et reste debout même secoué par le pire des tremblements de terre. Nous avons déjà vu la largeur et la longueur de son amour. Aujourd'hui, je vais parler de la profondeur de son amour. Qu'évoque cela pour moi ? Je pense à la condition humaine qui sombre dans les bas-fonds du mal et du malheur. Nul ne peut nier que nous sommes tombés dans un bien triste état. Les mauvaises nouvelles arrivent de partout. Injustice, violence, immoralité, égoïsme, pauvreté et maladie. On dirait que la vie humaine n'a plus de valeur. Tout va de mal en pis, sans aucun espoir d'amélioration. Le texte lu sur l'amour de Christ est tiré de la lettre de l'apôtre Paul adressée aux chrétiens de la ville d'Éphèse. Dans cette lettre, Paul décrit la condition humaine. Il dit que sans Christ, nous sommes spirituellement morts à cause de nos péchés. Que sans Christ, nous sommes trop facilement influencés par le mal, par le monde qui nous entoure, par les désirs de notre propre cœur. Il dit que sans Christ, nous sommes tenaillés par les puissances spirituelles maléfiques, et enfin que sans Christ, nous allons finir par rencontrer et subir la colère de Dieu. Voilà un bien sombre tableau dépeignant notre existence et notre destinée. Christ aurait pu nous laisser sombrer dans ses abîmes, car après tout, c'est ce que nous méritions. Christ aurait pu nous abandonner aux conséquences de nos fautes. Pourquoi aurait-il dû s'occuper de nous ? Mais non, Dieu est riche, abondamment riche en miséricorde et en grâce. Christ est à ce point rempli d'amour qu'il veut nous sauver, nous délivrer de ses profondeurs. Et pour nous sauver, il a fallu qu'il quitte les lieux célestes où règne gloire, paix et justice, et qu'il descende jusque sur la terre pour vivre parmi nous dans la personne de Jésus de Nazareth. Il a fallu qu'il subisse tous les maux et les malheurs de notre existence, bien que lui n'ait jamais commis de péché. Et pour finir, il a fallu qu'il se livre entre les mains d'hommes méchants, injustes et cruels, qui l'ont condamné à mourir sur la croix. Tout cela fut nécessaire pour nous libérer de l'impasse dans laquelle nos péchés nous avaient précipités. La croix de Jésus-Christ était le seul moyen nous permettant d'en sortir. La croix nous montre ainsi la profondeur inestimable de l'amour de Jésus-Christ.
Notre désir le plus profond est que chacun d'entre vous puisse connaître Jésus-Christ et toute la plénitude de son amour.
Sur ce, je vous dis au revoir.
Au revoir et que Dieu vous bénisse.